Très chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, 15 octobre 2013. Mon nom est David Couture. Nous nous retrouvons pour ce deuxième rendez-vous sur des sujets reliés à l'économie dans le cadre de l'implantation du projet Extraordinaire, cette initiative citoyenne qui a pour but de créer de la richesse au Québec, beaucoup de richesse, grâce à des mesures concrètes visant à stimuler le commerce local. Le thème dominant aujourd'hui sera l'emploi. On verra entre autres que le système économique actuel, le système capitaliste, est un tueur d'emplois, un créateur de chômage, alors qu'un concept économique qui mettrait de l'avant le commerce local serait plutôt un créateur d'emplois extraordinaire et surtout créateur d'emplois stables et bien rémunérés. Donc, comme je viens de le mentionner, c'est notre deuxième rendez-vous qui, je l'espère, sera meilleur que le précédent. Je vous remercie de votre indulgence concernant les petits ajustements qui sont associés soit à ce métier d'animateur-là, donc on parle soit de l'érudition comme telle, ou le côté technique. J'ai la chance d'être coaché dans cette aventure radiophonique par le propriétaire de la radio web Sougère Bonheur, à savoir M. Hugues Bergeron, qui m'initie à l'usage correct des multiples boutons de la console. Et Gloria Duchesneau, bien connue pour son émission Gloria Live, le soir à 21h. Dans son cas, Gloria, elle me corrige sur mes performances oratoires et tout particulièrement sur mon français. Avec mes tonalités de petit gars qui a vécu son enfance sur une ferme en campagne, il y a de la job à faire. Je vous remercie donc tous les deux. Je les remercie tous les deux pour leur grand soutien au développement du projet Extraordinaire. Je vous rappelle que vous pouvez participer, vous aussi, en direct à cette émission en vous rendant sur notre page Facebook au www.facebook.com/projet-extraordinaire. Vous y trouverez les documents, les images, les liens Internet dont je ferai mention durant la prochaine heure. Vous pourrez aussi, bien sûr, commenter mes propos et si l'occasion s'y prête, je vous répondrai en direct. L'actualité économique cette semaine, on a encore eu, une fois de plus, beaucoup de mauvaises nouvelles. Et comme nous sommes rendus à une phase finale de la globalisation internationale des marchés, les conséquences les plus évidentes de ce plan insensé se font de plus en plus sentir. J'en ai parlé des conséquences de ce capitalisme morbide lors de notre dernière émission. Et une de ces conséquences, c'est la perte massive d'emplois. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on retrouve dans les médias des annonces sur des pertes massives d'emplois. La semaine dernière, on a appris notamment l'annonce d'une coupure de 10 000 emplois chez la compagnie Alcatel, une des plus grosses entreprises de fourniture de matériel en télécommunication. La compagnie Siemens, une autre immense entreprise en technologie, a retourné chez eux 14 000 personnes début d'octobre pour un total de 20 000 depuis 2008. Fin septembre, c'était 2 800 emplois de moins chez Air France, 1 800 personnes à la fameuse banque Wells Fargo. Parlant de banques, j'ai publié sur notre page Facebook une liste de 20 banques. 20! Qui ont fait faillite depuis le début de l'année 2013. Pas juste une ou deux banques, là. On parle de 20 banques. Et ça n'inclut pas dans la liste des banques majeures qui devront s'y joindre prochainement à cette liste de banques qui ont fait faillite, dont JP Morgan, qui est à l'agonie, du moins selon des analyses très sérieuses que j'ai eu l'occasion de consulter. Combien de centaines d'emplois perdus, combien d'épargnants qui ont aussi tout perdu? Ça fait beaucoup de chiffres, là. C'est juste pour vous donner une idée. Vous n'avez pas besoin de retenir tout ça par cœur. Venons-en maintenant au Québec. Dans les 7 derniers mois, ce sont 50 200 emplois qui ont été perdus. J'ai publié dans l'article de la presse à ce sujet, toujours sur notre page Facebook. Et ça, mes amis, ça s'appelle la relance. Ben oui, la relance économique. Ça s'appelle les avantages positifs de la globalisation des marchés. Je vous avoue sincèrement que je n'y comprends pas grand-chose. Quand c'est rendu que les meilleurs avantages qu'on peut trouver dans un système, c'est la perte d'emploi en quantité industrielle, des épargnants qui perdent tout, leur maison, leur fonds de retraite et tout, ce qu'on nous dit, c'est ben oui, il est où le problème? On est en relance économique, la vie est belle. Je vous avoue mon incompétence intellectuelle à y trouver le moindre élément encourageant. Et si, en contrepartie, on avait aussi des vraies bonnes nouvelles économiques, telles que telle compagnie va embaucher 1000 personnes? Non, ça, on n'entend jamais ça. À part des promesses d'entrepreneurs pour avoir des subventions. Eh oui, combien de fois j'ai entendu des compagnies faire des demandes de subventions au gouvernement en disant « Grâce à cet argent, nous allons générer des centaines, voire des milliers d'emplois. » Et une fois que le gouvernement a craché le mouton, il ne se passe plus rien. Au pire encore, la compagnie se délocalise à l'étranger avec l'argent des subventions en disant au gouvernement « Poursuis-nous si tu n'es pas d'accord. Ça va te coûter plus cher en frais juridiques que les subventions que tu viens de nous octroyer. Ça sera ton problème à justifier tes dépenses devant les électeurs. » Et la plupart du temps, évidemment, on n'en entend plus parler. On nous en a montré une belle cette semaine dans le dossier de la débâcle de BlackBerry. Vous connaissez bien sûr cette compagnie-là. Cette très fameuse compagnie de téléphone intelligent, dont la valeur des actions est descendue à des niveaux ridiculement bas. Imaginez-vous donc, ça dans tous les médias la semaine dernière, qu'un actionnaire poursuit la compagnie, écoutez bien le motif, pour ne pas avoir été averti de sa débâcle financière à venir. Est vraiment pas pire celle-là. Imaginez un spéculateur. Ça, c'est un gars qui n'a peut-être aucune idée c'est quoi un téléphone intelligent, qui n'a jamais mis les pieds dans une usine, que sa job, c'est uniquement d'essayer de faire de l'argent avec l'argent, sans égard aux conséquences sociales, sans réaliser aucune création de richesse dans la société. Eh bien, ce spéculateur-là poursuit la compagnie parce qu'il a fait un mauvais placement et a perdu son argent. Ça, c'est l'équivalent comme comportement d'un gars qui s'en irait dans un casino, qui perdrait tout son argent et qui poursuivrait le casino pour ne pas l'avoir averti que c'était à son tour de perdre. Mais ce qui est encore plus frustrant dans ce dossier-là, c'est que si un gars se présenterait au tribunal pour poursuivre le casino à cause de ses pertes au jeu, aucun juge, évidemment, n'accepterait d'écouter une cause aussi absurde. Mais parce qu'au lieu d'avoir misé sur des jetons, l'autre bonhomme a misé sur des actions, alors là, tout à coup, il va pouvoir se rendre en justice. Et le pire, c'est qu'il va possiblement gagner un certain montant d'argent, quitte même à forcer la faillite de l'entreprise et mettre des dizaines de personnes à la rue, si c'est ce qu'il faut pour compenser son erreur de jugement. C'est incroyable! Le message que ça nous envoie, tout ça avec BlackBerry, c'est que la seule et unique chose qui compte pour le système capitaliste, c'est l'argent. L'argent devient un but de la société, le grand but de la vie. Et si pour atteindre ce but-là, il faut détruire des entreprises, mettre des gens à la rue, endetter la terre entière même, alors les acteurs de ce système-là ne vont se priver d'absolument rien. Ça, mesdames, messieurs, là, c'est l'exemple par excellence des conséquences logiques d'un comportement ultra-capitaliste. Une conséquence logique de la dérégularisation exagérée du marché. Il n'y a strictement rien de bon qui peut sortir de là, absolument rien de bon. Arrêtez de chercher des avantages à ce système-là. Oui, il y en a des avantages au système capitaliste, j'ai jamais contesté ça, mais ce sont les désavantages qui m'énervent. Surtout quand on parle de faire mourir de faim 10 millions de personnes par année dans le monde, détruire les entreprises les plus performantes de la planète, cacher des brevets ou des inventions extraordinaires, mais qu'on met de côté parce que c'est pas payant, donner des monopoles à l'industrie, à des gens qui ont strictement rien à foutre du bien social. Pour moi, il n'existe absolument aucun avantage qui justifie de tels désordres. Quand vous mettez sur les bons côtés du système capitaliste sur un bord de la feuille et les mauvais côtés de l'autre bord, ça finit toujours en négatif, sur le moyen ou long terme. Toujours, sans exception. Et bien sûr, c'est toujours le consommateur qui paye. Bon, ben, c'était mon coup de gueule de la semaine. Excusez-moi, mesdames, messieurs, pour mes emportements. Vous trouvez peut-être que je suis pessimiste, mais en fait, je suis pas pessimiste du tout, au contraire. J'ai tout plein de sujets optimistes à discuter avec vous, mais ça sert à quoi de parler de stratégie de création d'emploi, notre thème du jour, si ce n'est pas pour régler un problème de perte d'emploi? Ça sert à quoi de proposer des réformes du système économique si on n'expose pas d'abord les problèmes associés à ce système capitaliste? Il est nécessaire, vous en conviendrez avec moi, d'exposer les problèmes d'abord, si ensuite on veut exposer les solutions. Alors, des problèmes, je peux vous en énoncer en masse. Vous avez juste à lire les journaux, tout comme moi. Vous en trouverez autant que vous en voulez. Mais fort heureusement, il existe aussi autant de solutions. Mais ça, les solutions, on en parle généralement beaucoup moins. Le projet extraordinaire s'est donné comme objectif de mettre de l'avant et faire connaître à la population du Québec les solutions qui existent pour améliorer notre qualité de vie. Aujourd'hui, on parle d'emploi, alors nous allons explorer ensemble les solutions qui existent relativement aux conséquences positives, c'est-à-dire les avantages du commerce local sur la création d'emplois. L'emploi, c'est un sujet difficile à discuter parce que dès qu'on cherche à identifier les causes de la création de la perte d'emploi, on tombe dans un cercle vicieux et on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir. Comprendrez que pour créer des emplois, il faut des entreprises qui prospèrent. Mais ces entreprises-là ne peuvent prospérer que s'il y a suffisamment de consommateurs en moyens financiers suffisants pour acheter les produits et services qu'elles ont à vendre. Mais évidemment, pour être en moyen d'acheter, il faut un emploi bien rémunéré, mais l'entreprise ne peut pas embaucher avant de commencer à vendre et faire des profits, d'où le cercle vicieux apparent. Cette situation semble un problème insoluble à première vue, et en effet, si on le regarde du point de vue du système économique actuel basé sur la pyramide capitaliste, c'est effectivement un problème insoluble. Car ce système-là, basé sur le système capitaliste, qui est basé sur le profit d'abord et avant tout, favorise plutôt la réduction du nombre d'emplois et la diminution des salaires, ce qui amène comme conséquence, évidemment, des moyens financiers diminués pour les consommateurs et donc moins de profit pour les entreprises. Alors, pour les acteurs de ce système-là, évidemment, ils vont nous dire que l'endettement est absolument nécessaire pour stimuler l'économie. D'ailleurs, tout le système actuel est basé sur un système de dette, système d'endettement. On va aussi chercher à régler la situation par des subventions gouvernementales aux entreprises, ce qui leur permet d'avoir de l'argent pour créer des emplois avant d'avoir commencé à vendre et à prospérer. Mais quand on regarde le coût versés en subvention versus le nombre d'emplois créés, on se rend compte qu'il coûte actuellement de plus en plus cher de subventionner des emplois. On parle de jusqu'à 250 000 $ de subvention, ça prend pour créer un emploi. Et ce sont des emplois souvent précaires qui, en bout de ligne, ne font pas gagner grand-chose à la société. Donc, c'est un système très coûteux et surtout très peu performant. On en voit d'ailleurs les conséquences aujourd'hui. Si cette théorie était bonne et que le niveau d'endettement était un présage d'un boom économique à venir, aïe aïe! Avoir le niveau d'endettement pharaonique du gouvernement et des entreprises aujourd'hui, on devrait s'attendre à un boom économique à venir vraiment extraordinaire, sans précédent. Or, c'est exactement l'inverse qu'on est en train de vivre. Qu'on vienne pas me dire le contraire. La solution proposée par le projet extraordinaire permet d'inverser cette tendance et augmenter le nombre d'emplois, augmenter aussi les salaires, augmenter la capacité d'achat des consommateurs, mais sans endettement et sans subvention. Alors, pour réussir cette opération, que je vais vous exposer en détail dans quelques instants, nous proposons d'abord d'augmenter la capacité d'achat des consommateurs. Je vous ai parlé lors de notre dernier rendez-vous téléphonique du coin, Q-O-I-N. Donc, la création de cette unité de mesure commerciale qui se trouve à mi-chemin entre une monnaie alternative et un point de fidélisation, donc qui permet de donner à tous les membres 30 % de pouvoir d'achat supplémentaire. Alors, cette augmentation du pouvoir d'achat-là ne vise pas à consommer plus, mais sert surtout à combler la différence de prix entre les produits de base offerts dans les multinationales et les produits comparables, mais un peu plus chers, offerts chez les producteurs locaux. Un peu plus cher peut-être, mais tellement de meilleure qualité et tellement plus avantageux pour notre enrichissement collectif. Donc, sans subvention, sans intervention gouvernementale, sans endettement, mais grâce au pouvoir collectif d'un ensemble de consommateurs, le coin, l'introduction du coin dans l'économie locale va nous permettre de se donner à soi-même, de se doter des outils financiers nécessaires pour stimuler notre économie sans que personne soit perdant au final. Ça, c'est très important. D'ailleurs, je vais vous en parler davantage lors d'une prochaine émission. Je vais vous parler de l'importance que dans une transaction donnée, tout le monde dans la société en sorte gagnant. Dans le système capitaliste, on valorise beaucoup le comportement selon lequel on peut faire de l'argent avec de l'argent. Dans une opération de trading, de vente et d'achat d'actions, par exemple, dans un seul but spéculatif, c'est-à-dire dans le but de gagner de l'argent basé sur une décision presque sur le hasard, comme au casino, un spéculateur peut arriver à gagner de l'argent, mais sans apporter quoi que ce soit à la population. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une transaction est réalisée sans qu'il y ait eu en contrepartie une création de richesse réelle, nécessairement, quelqu'un, quelque part, va devoir souffrir d'un manque à gagner proportionnel à l'argent que le spéculateur a gagné. Ce sont des gains, à mon avis, illégitimes et même antisociales. C'est ce qui explique pourquoi il existe dans le monde mille fois plus d'argent que ce qui est nécessaire pour nourrir toute la planète, mais que malgré cela, des millions de personnes meurent de faim chaque année. Faire de l'argent avec de l'argent sans création de richesse, ça devrait être totalement interdit, car ça n'a absolument aucun avantage social. Absolument aucun. Je prends le temps de vous parler de ça éventuellement avec. Je prendrai le temps de vous parler de ça avec toutes les explications appropriées. Et évidemment, comme à l'habitude, on expose les problèmes, mais on parlera aussi des solutions pour régler le problème, parce qu'il y en a des solutions et surtout à notre portée. Si on revient donc, on va revenir à notre sujet de départ, la création d'emplois et le commerce local. Imaginez que dans une région donnée, supposons Sherbrooke, puisque c'est là que le projet demeure en premier, supposons donc que 1000 ou 2000 personnes décident de transposer un certain pourcentage de leur budget mensuel. Supposons 500 $, on fait des chiffrons, là, donc 1000 personnes à Sherbrooke qui transposent 500 $ par mois de leur budget mensuel vers le commerce local. Si vous faites le calcul, ça donne un budget de 500 000 $ par mois, Ça, on parle de 1,5 million de dollars là, qui va stimuler le commerce local dans la région. Imaginez un seul instant que le gouvernement annonce une subvention de 500 000 dollars par mois pendant les 10 prochaines années pour stimuler le commerce local à Sherbrooke. Tous les commerçants ils seraient complètement emballés, ce serait extraordinaire. Mais évidemment, le gouvernement n'a pas ce budget-là. Mais nous, les consommateurs, on a le pouvoir de réaliser cet objectif-là sans que ça nous coûte une scène. Il suffit simplement de le vouloir et d'agir en conséquence. À tous les mois, déjà, on dépense plusieurs centaines de dollars pour couvrir nos besoins de base. On se lave, sale pas sale, tous les mois. On mange, faim, pas faim, tous les mois aussi. On s'habille, frette, pas frette, tous les mois. Alors, le but n'est pas d'acheter plus que d'habitude, je l'ai dit tantôt, c'est de consommer, ni de consommer des plus grandes quantités, mais simplement de faire le petit effort de se poser la question suivante. Parlons de savon, là. Ce savon-ci avec lequel je me lave, est-ce que ça changerait quelque chose pour moi, pour la société en général, si je l'achetais ailleurs? Parce qu'il faut l'avouer, qui d'entre vous avait déjà réfléchi sur la conséquence sociale d'acheter son savon à un endroit ou à un autre? Vous découvrirez là, dans les prochaines minutes, je vais en parler davantage, que cette petite décision à prendre à chaque fois que vous devez acheter quelque chose peut générer une création de richesse extraordinaire dont vous pourrez profiter très certainement si vous agissez de façon intelligente. Alors de là vient la question, de quelle manière, si je vais acheter mon savon chez le commerçant local, je génère de la richesse autour de moi? Je vais vous exposer dans quelques instants qu'est-ce qui se passerait si tous les Québécois allaient acheter leur savon chez un commerçant local plutôt qu'au grand supermarché et comment la création de richesses générée par ce savon serait extraordinaire. De savon. J'aime bien utiliser l'exemple du savon parce que c'est quelque chose en apparence d'anodin hein, que nous utilisons pourtant tous les jours. Peu d'entre nous avons pris la peine un jour de philosopher ou de méditer sur le thème du savon. L'exemple est d'autant plus intéressant que si un élément aussi banal que le savon pourrait amener des millions de dollars en richesse au Québec, imaginons les conséquences positives que pourrait avoir une économie entière basée sur les mêmes principes. Alors, parlons-en du savon. Dans un premier temps, je vais vous demander un petit exercice d'imagination. Transportons-nous en Chine dans une immense fabrique de savon qui produit fort probablement le savon que vous utilisez actuellement. D'ailleurs, vous voyez l'usine là dans votre tête, des milliers de pieds carrés cubes de machines avec des centaines d'employés qui s'activent. Ceux qui financent cette usine-là ne l'ont jamais vue. Ce sont fort probablement des spéculateurs financiers, possiblement à des milliers de kilomètres de là, comme aux États-Unis, qui ont donné une seule instruction au patron. Rien qu'une. Arrange-toi pour que ton usine rapporte. Le patron, lui, aura un seul objectif, s'arranger pour produire la plus grande quantité de savon possible au plus bas prix possible à l'unité. Donc, pour y arriver, il va diminuer la qualité de l'environnement, donc une usine construite en respectant au strict minimum les règles de sécurité, de salubrité, de confort. Ensuite, chaque employé devra travailler de la façon la plus optimisée possible, avec le moins de pauses possible, le moins d'avantages sociaux possible et le plus grand nombre d'heures de travail possible. Évidemment, dans les circonstances, un syndicat devient automatiquement un ennemi. Et finalement, pour la fabrication du savon, on utilisera bien sûr des ingrédients synthétiques, les moins coûteux possibles, sans égard à leur effet sur la santé et l'environnement, les procédés de fabrication les plus rapides possibles, et bien sûr, on fera les portions les plus petits et légers possibles. Les spéculateurs, quant à eux de leur côté, vont tenter de vendre cette production de savon bon marché le plus cher possible. Et une des façons de faire, c'est de prendre le monopole de certains secteurs du marché de manière à tuer la saine concurrence et ainsi pouvoir vendre au prix qu'ils auront envie, même si c'est 100 fois son prix de production. Ils veulent tout simplement s'en mettre plein les poches. Et pour justifier ces prix exorbitants, on n'aura aucun scrupule à développer en marketing autour de campagnes publicitaires aux messages trompeurs, faisant croire n'importe quoi aux clients du moment qu'ils achètent ce qu'ils ont à leur présenter. Et en disant n'importe quoi, finalement, le mensonge est devenu la norme. J'ai déjà vu une affiche où c'était écrit, je vous dis ça entre parenthèses, là, « Si le produit que vous désirez acheter a fait l'objet d'annonces publicitaires, ne l'achetez pas, c'est probablement mauvais pour vous. » Bien sûr, c'est exagéré un peu, mais ça illustre le cynisme bien présent dans la population qui sait qu'on lui ment pour l'inciter à acheter quelque chose qui n'est pas aussi bon que ce que l'on prétend. Alors, cette histoire de fabrique de savon, ça illustre, mesdames, messieurs, un scénario classique parmi ce qu'il y a de plus courant dans le système économique capitaliste, c'est-à-dire un système dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui, en plus, est béni et subventionné par nos gouvernements. Alors, on peut en conclure que ce système capitaliste-là produit du matériel de mauvaise qualité, de par ses principes, dans un environnement de mauvaise qualité, et qu'il génère un nombre d'emplois extrêmement limité. Et bien sûr, il va produire toujours ce système capitaliste-là du matériel qui sera vendu à un prix exorbitant comparé à ses coûts de fabrication, faisant en sorte que les gens payent beaucoup trop cher pour ce qu'ils ont. Et puisqu'on parle ici de savon, il faut s'attendre à ce qu'il lave mal, qu'il abîme la peau et qu'il pollue l'environnement. Or, c'est pourtant ce savon-là qu'on a l'habitude d'utiliser depuis toujours. Maintenant qu'on a exposé le problème, alors, comme d'habitude, allons-y avec la solution. Je vais vous exposer ce à quoi on pourrait s'attendre dans une économie saine et florissante et qui sera une réalité, d'ailleurs, d'ici quelques mois, grâce au projet extraordinaire. Imaginons qu'à partir de maintenant, vous alliez acheter votre savon au savonnier du coin. Alors, tantôt, on parlait de la réflexion à faire avant d'acheter quelque chose, et maintenant, on transpose cette réflexion-là, à savoir, la prochaine fois que je vais acheter un savon, je vais me diriger vers le savonnier du coin. Donc, ce savonnier-là, qui est un artisan passionné de son art et qui a un seul objectif, celui de produire un savon d'une qualité extrême, meilleur que ses concurrents, pour la meilleure des efficacités et surtout pour le plus grand confort de ses clients. D'abord, ce savonnier-là, notre artisan local, il va d'abord chercher des ingrédients de grande qualité, des huiles végétales, ça pourrait être des huiles d'olive de très grande qualité. Il choisira bien sûr un procédé de fabrication qui est efficace, peu importe que ce soit long ou coûteux. Il rajoutera dans son savon des ingrédients supplémentaires pour améliorer la qualité, notamment on peut penser à des huiles essentielles dont les propriétés sont bien connues pour la santé et dont les odeurs agréables n'ont aucune commune mesure avec les odeurs des parfums synthétiques. Bien sûr, ce savon-là, fait avec amour, tendresse et beaucoup de passion, sera bien sûr plus coûteux. Le savonnier ne pourra pas vendre son savon 100 fois son coût de production. Il va se contenter d'un petit 40-50% de commission. Et malgré cela, son savon sera quand même deux fois le prix de ceux vendus dans les supermarchés. Mais notre petit savonnier artisanal, passionné pour son art, il ne cherche pas à faire des millions de dollars sur le dos des consommateurs avec ça, lui. Ce qu'il désire simplement, c'est d'avoir l'opportunité de vivre de son art. Combien de fois j'ai parlé avec des artisans, des gens passionnés qui ont un projet, un beau projet, puis qui disent « Moi, j'aimerais ça pouvoir lâcher ma job plate et pouvoir vivre de mon art, quitte à faire des concessions sur mon salaire. » Et c'est... Donc, c'est justement, le savonnier va d'abord chercher la qualité de son produit plutôt que de chercher à faire des profits à tout prix. Et malgré ça, bien évidemment, on peut le constater autour de nous chez plusieurs artisans très passionnés, la production augmente et le nombre de clients augmente. Et bientôt, notre savonnier, on l'est toujours dans l'imagination ici, là, il ne fournit plus à la demande. Alors, il va s'engager un premier employé. Mais pas question de réduire la qualité de ses savons pour autant. Il va prendre le temps nécessaire pour bien former son employé et s'assurer qu'il produise des savons d'aussi bonne qualité, soit exactement l'inverse des usines chinoises dont on a parlé tantôt, que le but, c'est de produire le maximum, le moins cher, avec le moins de monde possible. Là, on revient à notre savonnier. Quand son employé sera bien formé, il ne voudra pas le perdre, évidemment. C'est long et coûteux former des gens pour être capable de reproduire ce que nous on fait. Alors, il va lui proposer, évidemment, un salaire concurrentiel en raison de sa spécialité qu'il est en train de développer. Alors, ce petit producteur va produire, évidemment, 100, voire 1000 fois moins de savon dans une année qu'une usine de production haute performance. Nous sommes 8 millions de personnes au Québec. Alors, imaginons un instant qu'une majorité d'entre nous décidons d'acheter seulement du savon produit localement. Je dis des chiffres qui sont peut-être gros, là, mais on fait des chiffrons juste pour comprendre le principe. Donc, on l'a vu déjà que le seul fait d'avoir un commerce local, ça produit 4, 5, voire même 8, 10 fois plus d'emplois dans le commerce local que le même produit généré dans une multinationale ou une grande usine de fabrication. Et cette fois, le travail en plus, il est fait avec passion, avec plaisir, dans un environnement confortable, agréable. Et toujours en parlant de savon, le consommateur va se retrouver avec un savon d'une qualité hautement relevée, avec des matières premières nobles, travaillées avec soin, qui va non seulement laver efficacement, mais sera sans danger pour la peau et ne polluera pas l'environnement. Là, on voit les avantages sortir tranquillement. Ce n'est pas juste des petits avantages, c'est significatif. Alors, il ne faut pas oublier que les centaines d'emplois que ça va générer autour de nous et à très bon salaire vont permettre d'activer l'économie dans tous les secteurs d'activité. C'est toute la société qui bénéficie de ça, finalement, sans générer de perdants. Je reviens souvent là-dessus, mais c'est important la notion de ne pas générer de perdants. Dans une société, on peut tous vivre en harmonie sans que les actions de un deviennent une perte pour un autre. On peut faire en sorte que toutes nos actions soient gagnantes pour tout le monde. J'ai fait un petit calcul rapide. Si tous les Québécois achetaient leur savon localement, attention, attachez votre tuque, c'est 300 millions de dollars qui seraient injectés dans l'économie québécoise, sans compter l'augmentation radicale de la qualité de nos soins corporels et l'effet considérable sur la pollution de l'eau. 300 millions de dollars, on parle seulement du savon. Et tout cet argent-là va évidemment être envoyé dans l'économie locale, alors qu'actuellement, ce sont les spéculateurs à l'extérieur du Québec qui profitent de tout cet argent-là. Et là, on parle juste du savon. C'est quoi le savon dans notre budget mensuel? 10$, 20$ par mois? Combien dépensez-vous par mois dans les biens de consommation dans tous les autres secteurs d'activité confondus? 500$, 1000$, 2000$, ça dépend des gens, évidemment. Toutes les réponses sont bonnes. Le but ici, c'est simplement de démontrer que uniquement le savon, juste ce petit détail-là, ce petit élément-là dans notre consommation mensuelle peut générer 300 millions de dollars de richesse au Québec. Et on l'a dit, c'est un petit capital de 20$. Là. C'est pas grand-chose pour tous les avantages que ça peut donner. Maintenant, on peut très bien transposer tout ça. Imaginez qu'au lieu d'être 20$ par mois, ça sera 500$, 1000$ qu'on injecte. Croyez-moi, si on faisait ça, le Québec deviendrait rapidement la province la plus riche en Amérique du Nord. Le chômage serait totalement inexistant au Québec et la dette gouvernementale du Québec fondrait comme la neige au soleil. Et surtout, ça ne nous aura pas coûté une scène noire. Je vous pose la question, qui possède le pouvoir de réaliser un tel projet? C'est nous. C'est nous qui sommes à la base de l'économie. C'est nous qui possédons collectivement le plus gros portefeuille, le plus gros pouvoir d'achat. Nous avons ce pouvoir de créer des milliards de dollars de richesse au Québec et faire en sorte que cette richesse demeure chez nous. Et arrêtons de jouer les vierges offensées, là, puis de toujours lancer la balle aux multinationales, de toujours attaquer les mêmes grands leaders mondiaux qui nous oppressent. Vous comprenez maintenant que c'est nous, le peuple, nous, les consommateurs, qui donnons à ces gens-là le mandat, l'argent et le pouvoir de réaliser leur contrôle de la société. Et comment on fait ça? C'est qu'on achète compulsivement dans leurs entreprises capitalistes. Alors, si vous avez bien suivi et que vous avez compris mon propos, vous aurez également compris que nous, les consommateurs, nous possédons la clé de la création de richesses au Québec. Et si nous sommes pauvres, c'est en grande partie à cause de nos mauvaises habitudes de consommation collective. Donc, si nous sommes responsables du problème, nous pouvons aussi être responsables de la solution. Et nous possédons ce pouvoir de solution, ce pouvoir de régler le problème, ce pouvoir d'agir et de changer les choses. Mais qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour exercer ce pouvoir? Pourquoi n'avons-nous rien fait jusqu'à maintenant? Je réponds à ces questions dans quelques instants. Nous avons tous des valeurs qui nous tiennent solidement à cœur. Pour certaines de ces valeurs, rien, absolument rien, aucune influence, aucune pression ne saurait nous faire changer d'avis. Vous avez d'autres valeurs qui sont bien présentes dans votre esprit, mais que, pour une raison ou une autre, vous ne les appliquez pas. Je dis « vous », là, mais c'est, je devrais dire « nous », moi inclus. Parmi ces valeurs, fort probablement communes à la plupart d'entre vous, les auditeurs, on retrouve très certainement le désir de faire un changement dans le monde, le désir de voir les multinationales s'occuper davantage de leur influence sur la société plutôt qu'à leur profit. Vous avez très certainement le désir de consommer mieux, c'est-à-dire peut-être éviter les fast-foods, par exemple, éviter l'achat de biens qui proviennent de pays où les travailleurs sont sous-payés, ou pire encore, où on fait travailler des enfants. Vous avez peut-être, pour l'écrasante majorité d'entre vous, j'en suis certain, le désir de réduire l'influence du système bancaire sur la société et bien sûr sur nous-mêmes. Et parmi les autres désirs, ça pourrait être celui de réduire notre dépendance au pétrole, par exemple. Mais pour tous ces désirs, nous savons quoi faire pour les réaliser. Nous savons, par exemple, quelles marques proviennent d'Asie, quelle nourriture contient des OGM, quel fast-food est responsable des épidémies de diabète et d'obésité. Nous savons tout ça. Et nous savons que pour que les choses changent, il faudrait éviter de consommer telle ou telle chose, il faudrait modifier plusieurs de nos habitudes. Et on le sait tous, combien d'entre nous faisons ce qu'il faut réellement? Je pense qu'il y en a parmi vous des gens qui vivaient... S'il y a parmi vous des gens qui vivaient entièrement selon vos convictions les plus profondes en matière de consommation, je pense qu'on peut vous compter sur les doigts d'une seule main. Alors, comment se fait-il que nous savons tous comment consommer correctement, mais que nous ne le faisons pas, ou du moins qu'on ne le fait pas en suivant exactement nos convictions les plus profondes? Puis, avec tout ça, on fait nos hypocrites et puis on continue à se plaindre de ceux qui nous oppressent. Alors, la réponse à la question « Pourquoi est-ce qu'on sait tout ça puis on fait rien? » c'est très simple, c'est que nous savons aussi que notre petit geste individuel n'aura fort probablement absolument aucune influence sur un quelconque changement social. Et cela nous déprime et nous porte à reporter à plus tard nos bonnes résolutions. Mais imaginez un instant. On retourne encore dans l'imaginaire. Je vous fais travailler fort à soir. Alors imaginez que vous vous joigniez à un regroupement d'individus qui vivent la même chose que vous. Mais qu'en plus, on vous offre 30% de pouvoir d'achat supplémentaire à la condition que vous achetiez chez des consommateurs locaux, des commerces évidemment autour de nous, des commerces socialement éthiques. Et vous savez que le nombre de participants est suffisamment élevé pour que la somme de nos gestes individuels fasse une réelle différence. Oh, là, tout d'un coup, la flamme va renaître et tout d'un coup, vous allez réaliser qu'un réel changement est possible et surtout concret et je rajouterai un résultat rapide. C'est exactement ce qu'offre le projet Extraordinaire. C'est une plateforme qui offre aux participants une opportunité de se mettre ensemble pour créer une véritable force d'action économique extraordinaire, comme son nom le dit. Alors, imaginez si dans une ville, 500 ou 1000 personnes se mettent, même plus que ça, 10 000 personnes se mettent du jour au lendemain à encourager les commerces locaux. Imaginez à quel point, très, très, très rapidement, l'activité économique va se mettre à bouillonner et les conséquences sociales vont pleuvoir. J'ai expliqué précédemment à quel point le seul fait de changer le savon avec lequel on prend sa douche peut avoir un effet de plusieurs centaines de millions de dollars d'activité économique au Québec. Imaginez un instant que c'est l'ensemble de notre budget de consommation qui est travaillé, qui est influencé de cette manière. Nous sommes prêts à passer à l'action, n'est-ce pas? J'ai le goût de vous parler d'un sujet très sensible. Est-ce que j'ose? Je vais prendre 30 secondes pour y penser. Thank you. Ici David Couture qui vous entretient sur le projet extraordinaire sur la radio web de Suggère Bonheur. On parle d'emploi aujourd'hui et là j'allais ouvrir une petite parenthèse sur un sujet sensible. On a vécu dernièrement un grand événement populaire de masse qu'on a appelé le printemps érable. Des milliers de personnes qui revendiquaient des droits en marchant dans la rue et en tapant sur des casseroles. Voulez-vous que je vous dise ce que j'en ai pensé de ces manifestations-là? Je ne suis pas sûr que vous voudriez vraiment que je vous le dise. Mais ce que je peux vous dire, c'est que concrètement, aucun des participants à ces manifestations-là, du moins ce qu'on en a vu et entendu, n'a manifesté l'intention de modifier ses habitudes de consommation. Les gens étaient là pour mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il passe des lois en leur faveur sans que eux aient besoin de changer quelque chose dans leur vie. Alors, vous savez, même si je sais très bien que ça va en frustrer quelques-uns, il existe un adage selon lequel une société a le gouvernement qu'elle mérite. Alors, pouvons-nous être surpris que, d'un point de vue gouvernemental, il se soit à peu près rien passé de réellement concret pour modifier positivement l'avenir du Québec, quand la population en général n'a rien fait concrètement, elle non plus? Alors, je peux vous garantir qu'aussi longtemps que des gens vont taper sur des casseroles en mangeant du McDonald's, il ne se passera absolument rien. Alors, comme le dit le folklore, entre vous et moi et la boîte à beurre, si vous voulez modifier le Québec et faire du Québec une société économiquement saine à l'avenir, ce n'est pas en marchant dans la rue ni en exigeant la gratuité des services publics que vous y arriverez. Si réellement vous désirez avoir une influence sur le gouvernement et les grandes sociétés qui nous contrôlent, commencez par changer la marque du savon avec laquelle vous vous lavez. Si 10 000, 20 000, 100 000 personnes faisaient ça, je vous garantis que quelque chose va changer au Québec. Fermez la parenthèse. Avant ma petite parenthèse sur l'influence des manifestations publiques, nous parlions d'emploi et tout particulièrement de la création d'emplois. J'en ai fait le thème du jour. Nous avons vu que le commerce local générait 3 à 10 fois plus d'emplois que les entreprises gérées selon le modèle capitaliste. Mais de là survient une question bien légitime. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un emploi pour être heureux dans la vie? C'est bien beau parler de création d'emplois, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a besoin? Alors, moi, je suis en affaires depuis 10 ans. J'ai eu l'occasion de côtoyer en même temps des gens très pauvres et d'autres extrêmement riches. J'ai observé que ceux qui sont les plus riches travaillent le plus et surtout le plus longtemps. La plupart des millionnaires dont j'ai eu l'occasion d'observer leur vie ont travaillé jusqu'à leur mort sans vraiment prendre de retraite. Il semble donc que les vacances ne rendent pas nécessairement heureux. Mais c'est plutôt le travail qui donne un certain sens à la vie. D'ailleurs, dans la Bible, par exemple, dès le début, dans la Genèse, Dieu donne cet ordre à Adam et à toute sa postérité en disant « Tu travailleras à la sueur de ton front ». On peut observer aussi les gens qui ont d'abord été pauvres et qui ont rêvé de longues vacances et qui soudainement se retrouvent avec beaucoup d'argent. Ça peut être le cas, par exemple, de ceux qui ont gagné à la loterie. Alors, on peut observer encore une fois là aussi que très, très vite, les vacances finissent par se transformer en travail. Vous-même, chers auditeurs, si vous deveniez millionnaire demain matin, passeriez-vous les 12 prochains mois assis sur une chaise sur le bord de la plage à siroter des cocktails? Vous l'essayeriez peut-être en tout cas, mais croyez-moi, après 2-3 semaines, vous allez commencer à vous ennuyer et commencer à vous intéresser à des choses beaucoup plus constructives que des vacances sans fin. Et d'ailleurs, à ce stade-ci de notre réflexion, on peut faire une nouvelle observation, c'est que les pauvres choisissent rarement le travail qu'ils vont faire, alors que le riche va plutôt choisir un travail qu'il aime, qu'il passionne et dans lequel il se sent utile. Et d'ailleurs, si vous gagnez à la loto demain, il est fort probable que vous preniez 2-3 semaines de vacances, mais très rapidement, une obsession va vous venir en tête, celui de profiter de l'occasion, hein, enfin vous avez de l'argent, pour réaliser tel ou tel projet que vous rêviez de réaliser. Alors, un projet autre que les vacances, bien sûr. Ça va être, bien sûr, des projets sociaux, des projets constructifs et utiles pour la société. Je suis absolument convaincu que plusieurs d'entre vous se sentaient tout particulièrement concernés par cette réflexion. Combien d'entre vous, chers auditeurs, je ne peux pas vous voir lever la main, mais je me l'imagine facilement. Je suis certain que c'est la majorité d'entre vous, en fait. Il y a Hugues ici en studio qui lève les deux mains. Alors, je suis certain que si je vous donnais 1 000 000 $ demain matin, que je mettais à votre disposition, vous l'utiliseriez en grande partie pour réaliser des projets à vocation sociale plutôt que vous payer du luxe et des grandes vacances qui n'en finissent plus. Et si on pousse la réflexion encore plus loin, on va en conclure tout simplement que vous allez utiliser votre 1 000 000 $ pour vous créer un emploi. Pour vous créer un travail, mais pas n'importe quel. Un travail dans un domaine où vous êtes compétent, un travail que vous aimez particulièrement et dans lequel vous vous sentez utile pour la société. Un travail qui donne un sens à votre présence au sein de la société. Le très célèbre Confucius disait un jour « Cherchez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. » Voilà donc, je pense, ce qui résume à merveille ce propos, à savoir celui selon lequel l'homme a absolument besoin de travailler. C'est vital, c'est dans ses gènes. Et la réelle différence entre le pauvre et le riche n'est pas le nombre de semaines annuelles de vacances, mais plutôt la qualité de son travail. Autrement dit, si on tentait de réaliser l'utopie d'une société parfaite, ce ne serait pas une société où tout le monde est en vacances, mais ce serait plutôt une société où tout le monde a un travail qui le rend heureux. Avons-nous besoin d'être riches pour choisir un emploi qu'on aime, un emploi qui nous passionne? Ici, au Projet Extraordinaire, nous pensons qu'avoir l'opportunité d'avoir l'emploi de notre choix est un droit qui devrait être accordé à tous et tout particulièrement aux pauvres. Beaucoup d'entre nous, pas tout le monde, mais un certain nombre, avons un esprit d'entrepreneur, un esprit d'invention, de développeur de projets, mais pour toutes sortes de raisons, nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs. Alors, bien sûr, il y a toutes sortes de raisons. Les raisons sont multiples. Ça peut être parce qu'il nous manque certaines connaissances et nous n'avons pas le temps ni l'énergie de retourner aux études. Ça peut être des soucis financiers. Donc, c'est souvent, ça prend un certain investissement, un certain capital que nous n'avons pas. Ça peut être aussi la peur. Et ça, c'est, je pense, un argument qui revient plus souvent qu'on ne le pense. La peur de ne pas être capable de réussir le projet, de percer à travers la concurrence, surtout quand notre concurrent est une multinationale. Ça peut être la peur de ne pas réussir à convaincre assez de gens de la pertinence ou la qualité de notre produit ou service. Alors, pour toutes ces raisons, la très grande majorité des projets ou des inventions ne voient jamais le jour et sont refoulés dans les tiroirs. Et ça, c'est vraiment très dommage. Grâce aux stimulations économiques qui seront mises de l'avant par le projet extraordinaire, des structures seront mises en place pour permettre au maximum de personnes de réaliser leurs objectifs professionnels. Déjà, le seul fait d'avoir une manne de consommateurs, donc tous des gens désireux de chercher une alternative à leur consommation dirigée vers le commerce local, ça va permettre de garantir une visibilité suffisante à tous les nouveaux projets. Et au Québec, ici, là, des idées, des inventions, des projets, c'est pas ça qui manque. On est un peuple très innovateur, très imaginatif et très riche à ce niveau-là, il faut l'avouer. Alors, cette stimulation-là des petits commerces, du commerce local, on retrouve ça dans à peu près aucun des projets de stimulation économique alternative que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de croiser. Je vous mets au défi d'ailleurs de me donner le nom d'une entreprise qui s'engage à faire la promotion devant un vaste public de nouveaux projets de petits entrepreneurs sans les ruiner en publicité et autres frais exorbitants qui, la plupart du temps, ne donnent pas grand-chose. Je vous l'expliquais tout à l'heure, le grand nombre de petites entreprises génère plus d'emplois et de bienfaits dans la société, dont une plus grande qualité des produits. Donc, tout ça, donc plus d'emplois, plus grande qualité si on compare avec les grosses entreprises. Alors, au projet extraordinaire, bien sûr, les petites entreprises seront valorisées davantage que les plus grosses. De toute façon, c'est les petites qui ont généralement besoin d'aide. Alors, ceci va permettre à un grand nombre de personnes d'avoir à leur disposition la plateforme économique qu'il leur faut, et c'est la plateforme extraordinaire dont on parle ici, qui va permettre à tous ces gens-là de réaliser leurs objectifs commerciaux. Je vous le dis tout de suite, ceci n'est pas une machine à fabriquer des millionnaires. Ce n'est pas l'objectif ici. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Quelqu'un qui arrive à vivre de son art, c'est généralement très, très heureux d'avoir réussi cette étape-là. Donc, pour l'instant, on s'en tient à ça. Et si on atteint cet objectif, ce sera déjà extraordinaire. Alors, oui, il existe des solutions pour avoir un emploi qu'on aime, un emploi qui nous valorise, un emploi qui apporte de la richesse à la société. J'ai commencé cette émission-là en parlant des problèmes économiques de nos sociétés modernes. Je vous avais promis que j'allais parler de solutions. Je pense qu'en matière d'emploi, c'est mission accomplie. J'ai parlé d'un seul sujet aujourd'hui, qui est la création d'emplois. Alors, c'est que sur l'ensemble du très vaste champ, quand on parle de projet économique, qui est incarné ici par le projet extraordinaire. Évidemment, ce n'est qu'un sujet parmi plein d'autres, mais c'en est quand même un très important. Il est important de comprendre que le projet extraordinaire n'entre pas en guerre contre qui que ce soit. On ne déclare pas la guerre aux capitalistes ni au gouvernement. On n'entre pas en opposition non plus avec les pratiques de ces gens-là et leurs plans économiques. Ce que le projet extraordinaire propose ici, c'est une responsabilisation personnelle en matière de consommation. On vous enseigne quelles sont les réelles conséquences, négatives ou positives, à chaque dollar de votre budget mensuel. Le projet extraordinaire vous propose une plateforme avec des incitatifs qui sont proposés pour nous aider ensemble à atteindre des objectifs de consommation intelligents. Et c'est toujours difficile de changer nos habitudes de consommation. Demandez à ceux qui veulent perdre du poids ou arrêter de fumer, changer une petite habitude récurrente, pratiquée pendant des dizaines d'années, ça demande de très grands efforts. Seul, c'est très difficile. Ça demande une certaine motivation qui est d'ailleurs très facile à perdre une fois qu'on a réussi à l'obtenir. Mais ensemble, si on travaille ensemble, si on se forme et on s'instruit ensemble, si on partage nos succès, nos objectifs, notre vision d'un Québec, un Québec riche dont nous faisons partie, que nous réalisons notre pouvoir de création de richesse et que nous visualisons les parts qui nous reviennent, alors là, les efforts prennent un tout nouveau sens et ça devient plus facile d'aller de l'avant. Et ça, c'est la partie la plus difficile, l'organisation. C'est la partie qui demande le plus d'efforts, qui est d'apprendre à travailler ensemble. Et c'est là, je pense, que dans beaucoup de projets est survenu l'échec. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois, on y est. Alors, je vous invite une fois de plus à vous abonner à notre page Facebook au www.facebook.com/projet-extraordinaire afin d'être mis au courant de l'évolution du projet. Vous pouvez également vous rendre sur le site web au www.projet-extraordinaire.com et vous rendre à la section contact et nous demander d'être ajouté dans la liste d'envoi. Vous recevrez de temps à autre un email d'information. Évidemment, vous serez tenu au courant des dates des prochains rendez-vous radiophoniques et c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour discuter de sujets aussi passionnants que les solutions en matière économique de notre avenir et de notre pouvoir de création de richesses ici au Québec. Bonne journée à tous et à la prochaine.
Come on in here. Come on in here, Alexander's Ragtime Band. Come on in here, come on in here. It's the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you want to go to war. That's just the best band. What am, oh, my honey lamb. Come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man. Who's the leader of the band? And if you care to hear the Swanee River playing in a ragtime, come on in here, come on in here. Alexander's Ragtime Band. Come on in here, come on in here. It's the best band in the land. They can booba doo 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 doo. That's just the bestest band. What am, oh my honey lamb. Come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man. Who's the leader of the band? And if you care to hear the Swanee River played in cool time. Or if you want to hear the Swanee River played in a ragtime. Come on in here. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do